Les cours sont publics et nous ne décernons aucun diplôme. Nous sommes un lieu d'enseignement de haut niveau dans les disciplines les plus variées.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Dès les fonds baptismaux sur lesquels il a été créé, le Collège de France a donc été un lieu de libre pensée.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment l'œuvre peut-elle être toujours modifiable et comment les différentes approches du temps interviennent-elles dans le processus créatif, demande le sociologue Pierre-Michel Menger. Qu'est-ce que le coût d'opportunité appliqué au monde artistique? Comment Picasso joue-t-il de ses relations avec son environnement dans son œuvre, de ses échanges avec Braque? Comment les idées fleurissent-elles mieux dans les espaces denses et comment les artistes usent-ils d'une économie de l'interaction et de l'agglomération? Le processus créatif si complexe à analyser peut-il être logé entre deux dates précises? Nous voici au terme de la grande enquête que Pierre-Michel Menger consacre à la question ainsi posée « Comment achever une œuvre, travail et processus de création ?» Directeur d'études à l'EHESS et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger interroge la notion, ou plutôt les notions complexes du temps, et comment ces notions interagissent avec le travail créateur, pas toujours au diapason du temps social. Fidèle à sa méthode, il fait dialoguer approche philosophique et sociologique. Il nous propose aujourd'hui et demain encore de passionnantes typologies, études de cas et grandes enquêtes, avant de nous livrer demain ses conclusions provisoires à ce premier grand volet autour de l'achèvement ou pas d'une œuvre. Dans l'heure, Pierre-Michel Menger nous explique que c'est évidemment le futur ouvert, indéterminé, qui correspond le mieux à la conception d'une position de l'acteur en situation de décider comment agir, même si les motifs de ces choix relèvent de mécanismes causaux. Comme le dit Valéry, qu'il cite, « Le déterminisme est la seule manière de se représenter le monde, et l'indéterminisme, la seule manière d'y exister. » Le sociologue nous introduit à bien des paradoxes avant d'interroger ce que veut dire au juste la notion de processus et d'analyser l'apport de la sociologie processuelle du temps. Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 5 avril 2019 pour le cours de Pierre-Michel Menger, aujourd'hui, processus, typologie et cas.
J'ai conclu mon cours précédent sur ce principe de l'analyse intentionnelle qui était proposé par Baxandall. L'analyse de Baxandall débouchait, je vous le rappelle, sur un principe de généralisation approximative. Une fois posé que la description microscopique exhaustive des intentions, des solutions et des décisions était impossible. Le fin mot de l'analyse dans ce genre d'approche, c'est de redistribuer entre différents niveaux de conscience et d'infraconscience cette machinerie cognitive et émotionnelle qui organise l'action de l'artiste. Il y a bien sûr des problèmes à traiter, des décisions à prendre, des solutions à chercher, des flux incessants de questions, et rien ne nous oblige à les considérer selon le schéma habituel de problématisation et de décision qui veut maximiser le contrôle et la rationalité de l'évaluation des solutions. C'est le sens de l'argument que Baxandall donne et que je vous ai présenté la dernière fois. Je voudrais faire une toute petite remarque sur les arts différents dont on doit traiter, qui ont des caractéristiques différentes, évidemment. Et en vous donnant cette citation d'Eugène Delacroix, je voudrais insister sur cette idée que un peintre ne travaille pas comme travaille un écrivain ou un musicien. Delacroix le dit très bien. Il traite de la différence qu'il y a, c'est dans son journal, entre la littérature, la peinture, relativement à l'effet que peut produire l'ébauche d'une pensée, en un mot, de l'impossibilité d'ébaucher en littérature, de manière à peindre quelque chose à l'esprit, et de la force, au contraire, que l'idée peut présenter dans une esquisse ou un croquis primitif. La musique doit être comme la littérature, et je crois que cette différence entre les arts du dessin et les autres tient à ce que les derniers ne développent l'idée que successivement. Voilà un problème évidemment majeur. Quatre traits, au contraire, vont résumer pour l'esprit toute l'impression d'une composition pittoresque. Même quand le morceau de littérature ou de musique est achevé Quant à sa composition générale, ce fameux problème que nous avons vu à maintes reprises, l'organisation de la relation entre les parties et le tout, l'inachèvement des détails sera d'un plus grand inconvénient que dans un marbre ou un tableau. En un mot, l'à peu près y est insupportable, ou plutôt ce qu'on appelle en peinture l'indication, le croquis y est impossible, en musique et en littérature. Or, en peinture, une belle indication, un croquis d'un sentiment peuvent égaler les productions les plus achevées pour l'expression. Effectivement, le traitement différentiel de la question du non finito en peinture et dans d'autres arts est un sujet évidemment passionnant. Mais je ne l'explorerai pas dans le détail aujourd'hui, simplement c'est une sorte d'incidente pour vous introduire la variabilité des cas et des situations en fonction de la matière même des arts. Avant de quitter le travail des historiens d'art, et donc notamment celui de Baxandall, dont les sociologues sont du reste de grands admirateurs, je voudrais évoquer une dimension qui apparaissait assez fugitivement dans les exemples que donne Baxandall, des œuvres de Picasso, c'est celle des relations avec l'environnement de l'artiste. En quelque sorte, le sociologue est prié de reprendre un peu la main. Picasso, qui pratique le cubisme analytique, collabore étroitement et échange constamment avec Georges Braque à cette époque-là. Voilà un autrui significatif, comme diraient les sociologues. Il prend pour modèle Vollard et Canveller, dont on a vu les portraits, qui sont ses premiers marchands, mais qui sont aussi des entrepreneurs innovateurs et qui ont des idées sur la peinture. J'ai cité les livres qu'ont écrit ces marchands, Les souvenirs d'un marchand de tableaux de Vollard et aussi les écrits de Canveller, Der Weg zum Kubismus, qui a été traduit ensuite, et Les confessions esthétiques, Les entretiens avec Picasso, un livre sur Juan Gris, un fameux livre d'entretien avec Francis Crémieux qui s'intitule Mes galeries et mes peintres. Et je vous renvoie, je crois que je l'ai déjà fait, à un chapitre fameux du marché de la peinture en France de Raymond de Moulin sur Canveller comme marchand-entrepreneur. Howard Baker, dans son livre Les mondes de l'art, consacre un chapitre à ce qui s'appelle la mise en forme définitive de l'œuvre. Et ce qui intéresse Baker, c'est à propos de cette question de comment achever et quelle est la conduite dans le processus créateur. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas exactement le mouvement intime du processus créateur avec toute cette variabilité intrinsèque qu'on a un peu explorée, mais ce qui l'intéresse, c'est l'empreinte qui est laissée par une action collective. Et donc j'ai convoqué différents autrui qui viennent se placés dans l'atelier du peintre. Vollard et Canveller sont présents d'une certaine manière, mais ils sont présents à bien d'autres titres, et c'est à tous ces autres titres qu'on peut examiner cette action collective, comme le fait Baker, c'est-à-dire examiner la teneur non pas simplement en travail individuel, mais aussi en division du travail, en contribution de différents acteurs sociaux et en collaboration inter-individuelle, à même l'activité artistique. La variabilité du processus de travail exprime l'indétermination au moins partielle des critères de son effectuation. Il n'y a pas de bonne manière de travailler simplement, ni peut-être de bonne manière d'optimiser des collaborations avec toutes sortes de membres d'une équipe ou d'un processus de travail. Dans ce chapitre qui s'appelle en anglais Editing, Baker montre que l'œuvre doit sa forme définitive, c'est son sujet, aux choix successifs, importants et minimes, que l'artiste et d'autres effectuent jusqu'au dernier moment. Donc il maximise en quelque sorte le pouvoir d'intervention, non pas simplement de l'artiste, mais d'autres. Il déplace la focale tout à fait sur un paysage plus large. Il y a donc des problèmes de choix, de multiples possibilités de sujets, de formats, de traitements stylistiques, de matériaux d'assemblage, choix entre les différentes façons de faire, qui sont nouvelles pour l'artiste ou déjà employées, des choix effectués par négociation ou confrontation ou collaboration directe avec toutes sortes de partenaires de travail, ou des choix par anticipation de préférences, d'objections ou d'évaluation des publics ou des professionnels. Des choix qui peuvent être conscients, mais aussi des sélections automatiques ou des choix issus de cheminements infraconscients. Et au total, la présentation que donne Baker, la description, aboutit à ça, qui est effectivement assez réaliste, on peut le décomposer en quatre arguments, mais c'est un réalisme différent du réalisme de la description explicitement approximative de Baxandall. Premièrement, le nombre de choix qui est à opérer est considérable, au point qu'il faut renverser la question, c'est comment est-ce qu'on construit et qu'on comprend les contraintes plutôt que l'illimitation des choix. Mais évidemment, supposer que les choix opérés sont tous réfléchis est absurde, car l'énergie qui serait dépensée à tout peser serait évidemment dévoratrice et paralysante. Un jour, peut-être, des appareils, comme le rêvent souvent les artistes, montreront ce qui se passe dans le cerveau, mais est-ce que ça suffira? On en a déjà parlé, c'est absolument incertain. Ensuite, cette infinité des choix se soutient, et c'est un argument de sociologue, d'une pratique continuelle d'opération d'interchangeabilité des points de vue, c'est-à-dire que l'artiste sollicite et intègre des points de vue différents sur son œuvre et sur son travail à partir de l'échange avec ses partenaires. C'est un point essentiel, c'est vrai. Les artistes sont friands de ce que j'ai appelé l'économie d'agglomération, c'est-à-dire la densité des interactions avec toutes sortes de partenaires, de professionnels ou éventuellement de concurrents pour échanger en permanence et pour faire avancer un processus de travail. Les idées, ça fleurit mieux ou ça bourgeonne mieux dans des espaces denses. Ensuite, puisque les choix sont malaisément verbalisables, on ne peut pas chroniquer son travail directement, même si on a certainement un comportement qui intrigue beaucoup d'ailleurs de langage intérieur, c'est-à-dire d'autocontrôle par une verbalisation intime, ou au moins en tout cas partielle, les anticipations des opinions et des évaluations d'autrui dans ce jeu intersubjectif d'interpolation des points de vue sont à la fois des anticipations qui sont nécessaires. Je dois prendre en compte ce que peut m'apporter l'avis d'autrui ou la décision d'autrui de me dire ça suffit, etc., etc., ou au contraire, ça ne va pas encore. Mais en même temps, ce sont des avis qui ne détiendraient pas une vérité que l'artiste ne détiendrait pas. Ce sont des avis qui ont leur imperfection et qui entrent dans un système de négociation que l'artiste produit avec lui-même et avec autrui. Et c'est là que Becker vous donne une réponse, mais on va voir que ça n'est pas la seule possible à la question qui est posée dans ce cours, comment achever une œuvre. Et Becker dit, en gros, la terminaison de l'œuvre, ça n'est généralement pas l'affaire d'une lucidité clairvoyante qui renseignerait sans ambiguïté l'artiste sur l'atteinte du but. Des modifications sont toujours imaginables et praticables, et Dieu sait, les révisions après la création d'une œuvre musicale pour l'ajuster, pour la remettre au point, ou les révisions qui ont été proliférantes dans la poésie romantique anglaise au XIXe siècle, ou les révisions de manuscrits de Balzac, qui étaient des feuilletons qu'il a convertis en romans et qu'il a retravaillés pour les faire entrer dans un format très différent. En tout cas, les modifications sont toujours praticables et imaginables, et l'évaluation du juste point d'équilibre où l'œuvre doit s'arrêter d'évoluer, ni plus ni moins, évidemment, elle ne se calcule pas, parce que le résultat escompté, on l'a déjà compris, n'est pas déterminable à l'avance. Et, dit Becker, le salut vient de la contrainte externe, c'est-à-dire quelqu'un va intervenir pour dire « ça suffit », ou alors « c'est plus simple que ça ». Il y a une échéance, évidemment, une publication prévue, une exposition, un concert. Bref, l'environnement s'occupe de signaler à l'artiste que tout effort supplémentaire peut avoir un prix ou ce qu'on appelle un coût d'opportunité. Si je continue à travailler sur l'œuvre, peut-être que d'abord je vais rater la date de sortie du film ou du concert, et donc ça aura un prix. Pour un film, ce sera des agios bancaires, etc. Et je vais peut-être aussi gâcher ma réputation, être quelqu'un qui n'est plus fiable pour tous ceux qui sont impliqués dans le processus qui intervient en aval de la production de l'œuvre. Donc, c'est un grand sujet, évidemment, qui donne lieu, dans certains arts, comme le cinéma, à des comptes à rebours extraordinairement précis parce que les enjeux financiers sont considérables. Il y a à la fois ce qu'on appelle les bibles de tournage, c'est-à-dire tout ce qui doit être réglé pour ajuster tous les inputs au cours de la production du film, Et il y a comme ça un catalogue très raisonné qui est tenu par le secrétaire de production pour ajuster la coopération de chacun dans les temps qui conviennent. Donc c'est à la fois un système de coopération et un système de chronologie complexe. Et il y a en même temps le compte à rebours de la sortie qui est complexe aussi. Donc la contrainte externe, elle pèse évidemment très lourd. Elle peut peser beaucoup plus lourd dans certains arts que dans d'autres. Mais elle joue de toute manière... toujours, et en tout cas, ne pas finir, ça a aussi un prix intrinsèque, c'est ne pas finir quelque chose ou vouloir le prolonger, ça veut dire que je ne prends pas mon temps pour faire autre chose. C'est ça la définition du coût d'opportunité. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre si je n'avais pas agi ainsi? Donc, ici, on rejoint la perspective familière du sociologue, c'est celle qui insiste sur les relations, les interactions, l'immense réseau de liens qui est associé à une œuvre qui est après tout un projet et qui s'organise comme un projet. Un livre, c'est un projet et il a sa chronologie de production et de sortie. Et donc, nous voyons apparaître toute cette nécessité de l'ajustement et aussi des collisions possibles entre la temporalité du travail individuel et la temporalité de toute l'organisation des ressources et des interventions dans un processus collectif de cette nature. Si vous ne finissez pas le livre à temps, eh bien un autre sera sur l'agenda de sortie de votre éditeur et prendra votre place. Et dans la chronologie des sorties, des opérations médias, etc., etc., vous risquez d'être évincé ou mal servi. Alors, nous avions déjà rencontré ce motif de l'ajustement et du télescopage des temporalités quand nous avions examiné l'agenda de travail des artistes et la gestion des tâches multiples, artistiques et non artistiques, y compris dans le noyau même du travail. Mais est-ce que nous avons peut-être, à travers cet argument de collision des temporalités, est-ce que nous n'avons pas perdu de vue la nature processuelle du travail même de l'artiste qui intéresse bien sûr l'historien d'art, mais qui peut aussi intéresser le sociologue, et pas de la manière dont la description qui est faite ici le présente. En fait, c'est un peu le défi que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est d'explorer ce que veut dire au juste un processus. Quelle est la sémantique de ce terme et quelle est la temporalité qu'on peut concevoir? Et je me référerai en partie à la sociologie processuelle qui a été développée dans différents courants de la recherche, et par exemple par mon collègue Andrew Abbott. Nous savons, à partir des analyses que je présentais la semaine dernière, que le temps de travail à même l'œuvre doit pouvoir s'approcher, au moins par l'enchaînement des séquences et la concaténation des séquences, d'un temps architectonique, c'est-à-dire celui d'une intégration de ces séquences dans un ensemble qui se structure progressivement. C'est ce qu'on peut appeler des propriétés d'organicité. Et ce temps qualifie ce qu'on peut appeler aussi, et ce que les artistes eux-mêmes appellent, le travail de la forme, c'est-à-dire de cette mise en relation complexe entre les parties et le tout, et de la mise en forme, ajustement dynamique complexe entre parties et tout, dans un espace de choix potentiellement illimité. D'accord, on accepte ça, ce temps architectonique. Mais le problème, c'est quelle est la quantité optimale de temps, mais cette fois-ci chronométrique, c'est-à-dire celui des comptes à rebours dont je parlais à l'instant, des agendas de tous ceux qui vont travailler avec vous. Quelle est la quantité optimale de temps chronométrique ou calendaire qui est nécessaire pour obtenir cette qualité d'organicité ou de présentisme, c'est-à-dire de sentiment d'être immergé dans un temps long, qui a une qualité, une substance de temps présent qui dure? C'est un motif que je vais examiner tout à l'heure, la durée, plutôt que le temps chronométrique, parce que nous savons aussi qu'un temps qui a une propriété de durée, donc d'extension et d'élasticité, est favorable à ce qu'on appelle l'immersion et l'inventivité. D'un côté, on va dire que les créateurs et les créatrices sont pris par leur effort et sont immergés dans leur travail, et que de ce fait, ils n'ont jamais assez de temps. Et vous verrez, effectivement, le sentiment de l'urgence, il ne vous quitte pas beaucoup. Puisque, précisément, le terme précis de l'effort n'est pas strictement définissable et représentable. La finalité demeure imprécise, et donc Imaginez un countdown qui n'est pas simplement quantitatif, mais qualitatif. À quel moment est-ce que je vais être satisfait de l'état où j'arrive ? C'est une affaire qui est beaucoup plus complexe que de faire tourner un chronomètre. Donc, comme il est difficile de spécifier quelque chose à partir d'un but précis, on se met dans le flux temporel de la progression de l'effort vers le but, selon ce modèle stochastique et ensembliste que j'ai décrit. Et ça n'est interrompu que par ce countdown quantitatif qui aligne tous les agendas de tout le monde, y compris celui de l'artiste, et qui le fixe. Mais il y a une collision. Et évidemment, de l'autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps social et même le temps individuel ne peuvent pas se satisfaire de ce temps indéterminé dans lequel l'artiste peut éventuellement se complaire, parce que la vie sociale, celle de l'artiste, mais celle de tous les autres avec qui il travaille, elle a ses impératifs, notamment chronométriques. Et donc, le mieux qu'on puisse imaginer, c'est d'enchâsser des temps durés, en quelque sorte, tirés durés, dans des temps chronométriques, des plages, en quelque sorte, pour trouver le bon équilibre dans cette approche du « je n'ai jamais assez de temps et pourtant, nécessairement, je suis contraint ». Mais si je vais trop loin dans le « jamais assez », je risque de basculer non pas simplement dans le plaisir de continuer parce que j'y trouve un intérêt intrinsèque, mais je risque de basculer dans une situation très destructrice qui est de développer un perfectionnisme stérilisant et un culte de l'inachevabilité des œuvres. Et les artistes adorent jouer d'ailleurs avec ça. Il y a, je pense, plus d'un livre qui est titré « Les livres que je n'ai pas écrits » ou « Pourquoi je n'ai pas écrit ce livre ?» Enfin, on peut jouer avec ça à l'infini. Et donc, on va essayer de frotter ces deux temps l'un contre l'autre et voir ce que ça peut vouloir nous dire. Alors, pour entrer dans cette compréhension processuelle de la temporalité du travail, je vous propose deux conceptions du temps. D'un côté, le temps est une simple série de points ou de moments. Ce temps est organisé dans un ordre simple de séquences, de dates et de moments, selon une relation avant-après. Un point précède celui qui lui succède. Ça, c'est une vision numérique du temps, ou chronométrique du temps, si vous voulez. Et Aristote l'exprimait déjà dans sa physique lorsqu'il écrivait que le temps, c'est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après. Donc, à chaque instant, quelle que soit la période, vous savez que vous êtes dans un temps qui est précédé d'une seconde et suivi d'une autre seconde, ou minute, ou heure, etc. Ça, c'est le temps numéro un, le clock time, comme on peut dire, le temps de la montre ou de l'horloge. De l'autre côté, on peut prendre l'un des points en question, ou l'un des moments de cette série, qui est logiquement ordonné, et ce point, ou ce moment, est considéré comme incarnant un moment présent autour duquel se déploie un passé et un futur. Autrement dit, on le dote d'une mémoire et d'un horizon. Et dans ce cas, le temps qui s'écoule peut être saisi comme une succession de moments complexes. Ils ont gardé quelque chose du temps qui est passé et ils ont évidemment une direction et ils doivent absorber toutes les informations qui sont contenues dans ce qu'on peut anticiper d'un futur. Et la machine humaine est une machine à probabiliser le futur en permanence, à tout instant, ne serait-ce que pour se protéger de tous les risques qui peuvent arriver. C'est sa constitution biologique et psychologique. Et pour clarifier le propos, je vais reprendre un exemple que cite d'ailleurs Abbott dans son livre « Processual Sociology » dans le chapitre 6. Il s'appuie sur le travail d'un philosophe américain célèbre pour un article, au moins, mais pour d'autres aussi, mais un article qui a en quelque sorte été le déclencheur d'une conception analytique anglo-saxonne de la temporalité qui rivalisait en partie avec la conception européenne ou continentale, maintenant il faut dire continentale avec le Brexit, continentale de la philosophie qui est la conception phénoménologique, par exemple, de Husserl dans les leçons sur la conscience intime du temps, un fameux livre que je vous recommande de lire attentivement, mais aussi pour le mettre en balance avec cet article qui s'appelle « The Unreality of Time », qui est paru en 1908. Et ce philosophe, John Ellis MacTaggart, a proposé une distinction à propos du temps entre deux séries temporelles, la série A et la série B. Dans la série A, je peux dire par exemple que cet article a été publié il y a 111 ans, ou je peux dire qu'il a été écrit en 1908. Dans le premier cas, si je dis « il a été écrit il y a 111 ans », tout le monde ici, à cet instant, peut retrouver cette date de 1908, puisque chacun sait que nous sommes en 2019. Mais si ce cours est écouté dans 2 ans ou dans 100 ans, on ne sait jamais, et qu'aucune information n'est donnée sur la date à laquelle ce cours a été délivré, autrement dit, le point du temps dans lequel se situait le locuteur, le cours prononcé et son auditoire, vous-même, il sera impossible de déterminer la date exacte de la profération de ce cours. Donc, l'information « il y a 111 ans » est ce qu'on appelle un indexical. Sa signification dépend entièrement du contexte dans lequel elle est produite. Ça veut dire aussi que l'information se charge de valeurs de contextualisation. Dans le second cas, dire « l'article a été produit en 1908 », là, il n'y a absolument aucune ambiguïté possible. L'information est absolument complète et elle est stable, quel que soit le contexte de son énonciation. Donc, MacTaggart a appelé ces deux conceptions du temps, respectivement la conception « A series » et la conception « B series ». Cette distinction est effectivement très, très fameuse et elle a été discutée très abondamment. Je ne vais pas présenter ni discuter davantage cet article, en fait, dont l'enjeu est tout simplement de déterminer si le temps a une réalité. La conclusion étant d'ailleurs pour MacTaggart que le temps est irréel, « unreality of time ». C'est en fait un problème qui est très fameux, au moins depuis Kant et Hegel, qui sont d'ailleurs deux des socles de l'argumentation de MacTaggart. Vous savez que pour Kant, le temps, pas plus que l'espace, n'existe réellement. Ils ne sont pas des rapports réels entre les choses elles-mêmes, ce ne sont que des formes, ce qu'on appelle des formes a priori de notre sensibilité, grâce auxquelles notre expérience de toute réalité, qu'il appelle phénoménale, est possible. Ce qui existe, ce sont des objets, des atomes, mais le temps ou l'espace ne sont pas des relations phénoménales entre les objets. Et si je reprends la présentation que je faisais dans le cours précédent du processus de travail à même l'œuvre et de son caractère intentionnel, dirigé, ordonné à la résolution de problèmes, mais ni simplement propulsif, ni simplement finaliste, je peux le décrire en quelque sorte de l'extérieur si je donne des dates du début et de fin du travail. Les auteurs, les musiciens, les écrivains font parfois de la sorte. À la fin d'un travail ou dans un journal intime, il note la date du début, la date de fin. On voyait souvent ça dans les écrits de mes collègues sociologues. Je me souviens d'un livre d'Alain Touraine, commencé à Buenos Aires à telle date et fini à Paris ou à Berlin à telle autre. Enfin bon, c'est à la fois un repère pour lui et une manière de signaler une courbure temporelle, donc de le contextualiser. Ou bien alors, si je connais la date de signature du contrat pour une nouvelle œuvre, je peux qualifier ça de date de début. Après tout, c'est un problème intéressant pour un historien ou un chercheur de savoir quelle est exactement la durée de production de quelque chose, ou si je connais la date de publication, ou de première exécution, ou de première exposition de l'œuvre, etc. D'une certaine manière, c'est ce qu'on pourrait tirer du constat qu'après tout, le processus créateur est logé entre deux dates, et que le cheminement du travail s'insère entre ces deux dates, et que puisque l'analyse de ce processus est tellement complexe et tellement hypothétique, on peut se fier tout simplement à des dates qui sont des bons repères. Et donc, pourquoi donc est-ce qu'on irait se fourvoyer dans le chaos temporel de la production d'une œuvre ? Il vaut mieux savoir comment tout le monde peut se coordonner à partir de repères temporels de type B et d'en déduire que tout ce processus doit se conclure pour des raisons de coordination. C'est ce que fait Becker. Et donc, nous traitons le temps ici d'un point de vue macro. Il a évidemment sa légitimité et son efficacité. On peut, par exemple, calculer la productivité d'un artiste au long d'une carrière, calculer le volume des œuvres qui sont offertes à chaque instant. Ça a été beaucoup fait dans les années 50. On faisait de la une sorte de démographie de la production artistique avec ce genre d'outils. On peut aussi calculer donc la durée de réalisation des œuvres et, par exemple, la vitesse à laquelle travaille un artiste différemment du début à la fin de sa carrière. C'est une possibilité. Mais il faut disposer de cette information pour calculer cette vitesse. Oui, mais alors, nous manquons, dans une telle analyse, toutes les qualités particulières du travail sur lesquelles je n'ai pas cessé d'insister tout au long du cours. Et donc, nous manquons de comprendre pourquoi on peut associer un haut niveau d'intensité de travail et de pression interne, ce qui s'appelle, par exemple, la motivation intrinsèque, avec un déploiement de l'inventivité. Et nous ne décrivons ni n'expliquons rien des comportements dans ce temps de travail. Et finalement, nous serons incapables de modéliser la dimension à la fois interne et externe d'incertitude qui peut donner à ce travail sa pleine originalité.
Le Collège de France et France Culture vous présentent le sociologue Pierre-Michel Minger, Comment achever une œuvre, aujourd'hui, processus, typologie et cas.
Alors, donc, essayons de nous situer dans le temps de la série A, un écoulement du temps qui est essentiellement centré sur le présent, mais avec ses deux versants, du passé proche ou éloigné et du futur immédiat ou lointain. Dans ce temps, le présent est évidemment celui où nous agissons, nous faisons des choix, nous déployons nos forces et nous pouvons sans cesse nous poser des questions, de manière consciente ou infraconsciente. À chaque instant, nous faisons des raisonnements de ce type. Nous parions soit sur la stabilité de la situation. Par exemple, je peux escompter, comme vous, inconsciemment, que cet amphithéâtre ne va pas s'effondrer dans la minute qui vient. C'est une probabilité. On peut éventuellement la calculer. Vous pouvez la prendre en compte. Par exemple, si j'entends un craquement, mon attention sera alertée et le doute va commencer à faire surface, ou plutôt la conscience des alternatives silencieuses mais réelles, ou de l'enveloppe des virtualités dont la réalité présente n'est que l'une des actualisations. Et alors, si j'entends ce craquement, je commencerai à examiner et à probabiliser la situation dans laquelle je suis, parce que mon attention est alertée. Mais généralement, tout ça se passe de manière infraconsciente. Il faut admettre, on prend pour acquis ou pour une donnée, la stabilité de la situation dans laquelle on est. C'est aussi à partir de ce présent que nous avons une prise sur le futur, évidemment, par nos actions et nos décisions, mais des décisions et des actions dont la portée et la valeur sont incertaines. Sinon, ça ne serait pas le futur, ça ne serait qu'une horloge atomique. Et là, MacTaggart note un paradoxe. Donc, dans la série B, les événements sont avant-après. C'est seulement dans la conception du temps selon la série A qu'on peut concevoir le changement. Dans la série B, c'est A, puis B, puis C, ou 1, puis 2, puis 3, mais il n'y a pas de substance du changement, il y a juste un égrenage des temps. Le temps s'écoule dans la série A, et chaque événement est anticipé, devient présent, puis plonge dans le passé. Autrement dit, la position de chaque événement change dans la série temporelle. Et pourtant, on peut dire aussi, c'est un des paradoxes, que fondamentalement, un événement ne change pas de caractère essentiel selon sa position dans le temps. s'il est dans le futur, qu'il passe dans le présent, qu'il va dans le passé. Il apparaît à l'horizon, il s'incarne, puis il s'évanouit. Mais cet événement n'a pas changé substantiellement. C'est notre perception qui l'a temporalisé. Alors, il y a des débats innombrables aujourd'hui, je vous en ferai grâce, mais je vous incite à aller les regarder. Vous pouvez consulter le Handbook of Philosophy of Time, et vous verrez qu'il y a des philosophes qu'on appelle des présentistes ou des possibilistes qui voient dans le temps de la série A quelque chose qui n'est pas une simple construction perceptive, mais un temps réel et objectif. En tout cas, dans tous les cas, le temps de la série A, c'est bien celui de notre expérience de l'existence quotidienne et notre expérience de l'action possible. Oui, mais encore faut-il savoir, notamment, ce qu'est le futur dans la temporalisation de cette série A. Alors, je vous présente ici un schéma que j'ai extrait justement de Oxford Handbook of Philosophy of Time, dont je parlais à l'instant. C'est un schéma tiré d'un article de Karl Höfer, Time and Chance Propensities, qui présente ici, ce sont deux visions de la série A. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on va représenter le futur ? Dans cette vision-ci, qui est à droite, on a un schéma déterministe. Une fois qu'on sait comment les coordonnées du point de départ sont données, on peut déduire intégralement tout ce qui va se passer plus tard. C'est le principe du déterminisme. Ici, on est dans un schéma indéterministe. Autrement dit, on veut un futur qui soit ouvert, un futur sur lequel l'action est prise. Donc, le passé est là, mais il est clos, comme ici. Ici, nous nous situons à la pointe du temps présent et à ce privilège extraordinaire que peut avoir le temps présent dans des constructions de tous ordres, philosophiques ou sociologiques. C'est un des sujets, d'ailleurs, du livre de Andrew Abbott. Et le futur, il est lié à l'ouverture de différentes possibilités dans lesquelles on peut se déployer. À la fois, on peut essayer de les anticiper, mais on peut, à travers les choix qu'on fait, on se déplace ici ou là. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais vous allez devenir une sorte d'adepte de l'indéterminisme radical et vous allez nous soustraire l'explication de pourquoi est-ce que ça va se passer comme ci ou comme ça, alors que là, c'est simple. Comme disait Paul Valéry, le déterminisme est la seule manière de se représenter le monde et l'indéterminisme, la seule manière d'y exister. C'est une formule élégante pour comprendre la tragédie humaine. C'est que nous savons bien que nous sommes dans un monde où, en principe, il y a une détermination de toute réalité, de tout atome de réalité, si la causalité a raison. Nous avons néanmoins ce coefficient d'indétermination qui est lié à tout ce qu'on appelle les propriétés de la physique quantique. Et en même temps, nous espérons pouvoir y vivre et nous y déployer en pensant que l'avenir n'est pas écrit d'avance. Mais un déterministe dirait qu'il est trop complexe pour être lisible à travers une grille simple. Et voilà. Mais c'est bien ça qui est contenu dans deux visions de la temporalité. Et encore une fois, dans cette série A, je prends substantiellement pour donner qu'il y a un passé qui transmet quelque chose, il y a un présent dans lequel on est, et on va pouvoir agir de plusieurs manières. Ici, la description est en quelque sorte macro, et on ne s'intéresse pas aux micro-événements. Une incidente, le déterminisme, il a plusieurs espèces. Je ne développe pas ici, mais regardez par exemple les travaux de Guy Grenzer et ses collègues co-auteurs dans un livre formidable qui s'appelle « The Empire of Chance ». On peut disposer d'un déterminisme métaphysique, d'un déterminisme épistémologique, scientifique, méthodologique ou efficace. Pour dire simplement ce qu'est un déterminisme efficace ou « effective », c'est ce mot impossible à traduire, il demande à ce qu'on opère simplement à différents niveaux de théorisation, et le déterminisme valant pour l'un, mais tolérant le recours à des hypothèses non déterministes pour l'étude d'autres niveaux des phénomènes considérés. C'est un peu ce que je suggère à travers ce schéma ici à gauche. Et c'est vrai que ce schéma de gauche correspond bien à ce que nous apprenons de cette description que donnait Baxandall, toute cette opération de mental et pratique de choix avec des intentions innombrables, d'innombrables moments intentionnels qui se déploient, mais qui ne se déploient pas dans une direction rectiligne. Il peut y avoir, dit-il, des foules de décisions, mais aussi de refus, de décisions négatives et des bifurcations Voilà. Et c'est bien ça que nous avons en tête quand nous regardons comment les choses peuvent se passer dans un processus de travail. Donc, de cette petite exploration, à partir de cette distinction de MacTaggart, je vais retenir que nous devons trouver une conception du temps, une conception processuelle du temps, qui est les caractéristiques suivantes. Premièrement, la dynamique temporelle, elle est intégratrice, c'est-à-dire que chaque moment présent est gros d'un passé mémorisé et d'un futur dont on peut anticiper des éléments, plus ou moins précisément. Le passé et le futur sont là-dedans, puisque je retiens ce que j'ai fait tout à l'heure pour pouvoir décider ce que je vais faire maintenant et agir sur un schéma général qui peut-être se modifie à mesure, c'est même ça le principe, à mesure que je continue à travailler. Donc, il y a cette dimension d'intégration. C'est presque une application à la temporalité de cette idée d'architectonique de la relation entre le tout et les parties. C'est pour ça que j'ai parlé d'un temps architectonique tout à l'heure. Donc, ça n'est pas une temporalité organisée selon des relations sérielles entre des points successifs et entièrement disjoints et équidistants les uns des autres. Une seconde, puis une seconde, puis une seconde, ou minute, etc., qui sont disjointes et qui sont équidistantes. Deuxièmement, j'ai besoin d'une temporalité qui est hétérogène, c'est-à-dire les moments sont chargés de décisions, de quantités variables et de mouvements de retour en arrière, de contrôle et d'avancée. Et la perception du temps passé à travailler peut entretenir de ce fait une relation extrêmement élastique avec le temps chronométrique. Le temps ressenti dans le travail n'est pas le simple temps chronométrique. Ce qu'on peut résumer par « event time contre clock time ». C'est ici qu'apparaît cette opposition classique entre le temps de l'horloge, ou le temps atomique, si vous voulez, l'horloge maintenant est atomique, et le temps de la durée, au sens de Bergson. J'ai besoin aussi d'une temporalité qui est directionnelle, et qui n'est pas simplement réversible comme dans la série B. Cette directionnalité, ça veut dire que l'activité doit avoir un terme, mais elle n'est pas contrôlée par le but final. C'est ce que vous avez compris si vous avez en mémoire les éléments du cours qui ont fait intervenir à la fois ce que j'ai dit la semaine dernière, mais aussi les citations, par exemple, d'Albert Hirschman, ou donc celle de John Dewey la semaine dernière. Cette directionnalité, elle est fournie par ces mouvements d'anticipation qui rapporte le travail à un résultat possible qu'on peut entrevoir par une évaluation de la mise en cohérence progressive qui vise à l'intégration des parties dans cette totalité qu'on cherche à entrevoir et qu'on construit en même temps. Donc, ce temps a cette substance de durée, cette intégration d'états successifs. Je vous résume la conception qu'en avait donnée Bergson, qui fut, comme vous savez, professeur ici même, et fameux. Il en a donné, c'est l'analyse célèbre, je la résume en vous proposant la synthèse qu'on a faite dans un livre formidable, Gilles Deleuze, qui était à la fois un philosophe très original, mais aussi un extraordinaire pédagogue, je dois dire. Et il a écrit un petit livre qui s'appelle « Le Bergsonisme », où il résume bien l'argument. La durée se distingue d'une série discontinue d'instants qui se répéteraient identiques à eux-mêmes. Ça, c'est la série B. Donc la série A, c'est la durée. D'une part, le mouvement suivant contient toujours en sus du précédent le souvenir que celui-ci a laissé, il cite Bergson. D'autre part, les deux moments se contractent ou se condensent l'un dans l'autre, puisque l'un n'a pas encore disparu quand l'autre apparaît. Non seulement le passé coexiste avec le présent qu'il a été, mais comme il se conserve en soi, tandis que le présent passe, c'est le passé tout entier, intégral, tout notre passé qui coexiste avec chaque présent. Voilà l'argument. Alors évidemment, ce temps duré complexe, il est enchâssé dans le temps chronométrique ou atomique, et la situation de travail rapporte sans arrêt l'un à l'autre, mais précisément dans un enchâssement complexe. Par exemple, je l'ai déjà dit, sous forme de découpage de plages de temps de travail dans un agenda composite, et sous forme de gestion flexible des durées de travail, dans une journée, une semaine ou une année. Quand vous étudiez les agendas de travail des artistes, les horaires de travail ou les habitudes de travail sont assez rarement métronomiques dans l'activité créatrice. Et précisément l'autonomie qui est si chère aux artistes, mais pas seulement aux artistes, à tous ceux qui espèrent pouvoir accomplir leur travail avec une liberté suffisante pour lui donner suffisamment de sens. Cette autonomie, c'est aussi celle de la non-sujétion à une technologie de contractualisation du travail dû ou contrôlable. On ne verra pas souvent un artiste aller pointer ou se soumettre à une législation quelconque de son temps de travail. C'est même une des raisons pour lesquelles les artistes sont souvent des indépendants. Ou alors faire valoir ses droits à congé, sauf sous une forme très particulière, qui est d'ailleurs celle qui m'a permis d'explorer en considérable détail le travail contractuel des artistes dans le secteur des spectacles, c'est que les congés sont monétarisés. Au lieu de déclarer et de prendre des congés obligatoirement, comme dans un travail salarié classique, les artistes des spectacles et les techniciens, les cadres, etc., ce qu'on appelle les intermittents du spectacle en France, obtiennent l'équivalent monétaire de leurs congés. Mais ils ne prennent pas les congés en question parce que personne n'est là pour leur dire, là, puisqu'ils ont beaucoup d'employeurs possibles et des contrats qui sont éventuellement très courts et discontinus, ils obtiennent l'équivalent monétaire des congés. Autrement dit, l'employeur leur paye un supplément de salaire qui correspond à cette compensation des congés qu'ils peuvent prendre et qu'ils ne prennent en tout cas pas dans des conditions classiques du contrat salarial. Donc l'enchâssement des deux temps est complexe dans l'agenda des professions de création, des professions artistiques. Alors, pour cerner encore un peu mieux pourquoi cette conception de la temporalité peut varier selon la nature de l'activité exercée, après tout, dans un agenda de travail des artistes, on l'a vu, il y a pas mal de tâches différentes, et donc elles ont toutes des gestions temporelles propres. Je vais faire un bref détour par l'analyse sémantique des verbes d'action et d'état. Je l'emprunte à des travaux en langue anglaise, mais vous verrez que c'est assez simple à maîtriser. Je voudrais faire apparaître une distinction entre quatre catégories de verbes: d'activité, de réalisation, d'accomplissement et d'état. Cette distinction a été proposée par Zeno Wendler, un philosophe américain du langage qui a écrit un article intitulé « Verbs and Times » qui est paru en 1957, donc il y a 62 ans, si vous suivez bien mon raisonnement en deux séries, et dans la Philosophical Review. Et pour aller plus vite, j'emprunte un résumé de l'article et sa discussion d'ailleurs à un texte excellent d'un philosophe qui s'appelle Alexander Mouralatos. L'article s'intitule « Events, Processes and States » qui est paru en 1978 et qui est paru dans « Linguistics and Philosophy ». Et voilà les quatre catégories et les exemples de verbes qui les illustrent. Il y a d'abord les activités, courir, marcher, nager, pousser un caddie. Les réalisations, en anglais c'est « achievements », reconnaître, trouver, etc., vous voyez, gagner une course, commencer un cours ou le terminer ou le reprendre, mourir ou naître, les accomplissements, après tout le terme français n'est pas si mal, courir un marathon ou un mile, un mille mètres, peindre un tableau, grandir, se remettre d'une maladie, et les états, désirer, vouloir, aimer, haïr, dominer. Ici, je vous donne la substance des arguments qui qualifient ces différents verbes. Simon Bittmann, qui est ici assistant auprès de moi à la chaire de sociologie du travail créateur, m'a traduit le texte de Mouralatos et je l'en remercie. Et voilà ce que ça donne, je résume les arguments que développe Mouralatos pour qualifier ce que contiennent ces distinctions de Wendler. La notion de réalisation, elle saisit l'acte en gestation ou à son point culminant. Une réussite peut être datée, vous vous souvenez des exemples. Hein. Donc, achievements, hein, on est dans achievements, courir, etc. Donc, la réalisation saisit l'acte en gestation, une réussite peut être datée, une réalisation plutôt, peut être datée, placée indéfiniment sur un intervalle de temps, mais elle ne se réalise jamais à travers ou le long d'un intervalle. Une réussite prend du temps, mais elle ne traverse pas le temps avec cette substance de durée complexe que j'ai évoquée tout à l'heure. En revanche, la notion d'accomplissement indique une durée intrinsèque. Dans les cas d'accomplissement, nous sommes autorisés à caractériser un effet produit sur l'ensemble du segment temporel et non pas uniquement en référence à un seul moment. Quand vous dites « Jones a écrit une lettre durant la pause déjeuner », vous êtes dans cette situation. En outre, les accomplissements ne sont pas homogènes, remarquent Wendler et Mourelatos après lui. Wendler écrit « S'il m'a pris une heure pour rédiger une lettre, je ne l'ai pas écrite, disons, durant le premier quart d'heure. Sinon, je dirais « J'ai pris un quart d'heure pour écrire la lettre ». Mais il s'est passé des choses qui peut-être sont « J'ai ruminé pendant 5 minutes, j'ai médité, puis j'ai biffé, j'ai révisé, enfin bon. » Mais tout ça m'a pris une heure. Donc, et au bout du compte, je l'ai fini. Donc, j'ai accompli cette action de cette manière-là. Si je prends les activités, alors, leur caractéristique, par contraste avec les accomplissements, c'est d'être, elles sont pour caractéristique d'être homogènes. Si on dit « Jones court une demi-heure », on dit en quelque sorte, et on doit supposer vrai l'affirmation qui suit, « Il a couru lors de chaque intervalle de temps durant la période définie ». Je ne dis pas « il a mis une heure pour faire 1000 mètres » parce qu'éventuellement il s'est arrêté, il a repris, etc. Non, ici je dis « Jones a couru une heure », c'est une analyse sémantique. Mais ça dit quelque chose des verbes et de la conception de la temporalité. En quelque sorte, l'étendue temporelle d'une activité est intrinsèquement indéfinie puisque celle-ci n'implique ni relief dans le mouvement ni résultat attendu. Il a couru une heure, voilà. Enfin, les états, vous avez vu les exemples tout à l'heure, qui peuvent persister sur plusieurs périodes, diffèrent et des accomplissements et des réalisations, parce qu'ils ne peuvent pas être qualifiés d'action. Les verbes exprimant un état ne peuvent pas être conjugués à ce qu'on appelle le présent progressif. On ne dit pas, en tout cas pas dans un anglais correct, « I'm knowing », je suis en train de connaître, ou « je suis en train d'apprécier » ou d'aimer. Évidemment, on peut toujours se voir soi-même en train de faire quelque chose, mais on ne décrit pas l'état comme ça. On dit plutôt « I love », que « I'm loving ». Donc un état, c'est statique. Il peut apparaître ou être acquis par le changement, et il peut contenir la potentialité du changement, mais en soi, il ne représente pas un changement. Voilà l'argument. C'est un jeu mental qui est intéressant de faire pour savoir qu'est-ce que nous manions quand nous manions le langage. Et donc, au total, nous obtenons la caractérisation suivante du temps processuel pour la catégorie qui m'intéresse, c'est-à-dire celle d'accomplissement, parce que c'est celle qui contient cette vision du temps, c'est celle qui va me servir pour qualifier le temps processuel de l'acte de travail créateur. Qu'est-ce que j'y trouve ? J'y trouve un temps non homogène, c'est un point essentiel, j'en avais besoin, je l'ai dit. Autrement dit, c'est un autre nom d'un processus qui est durable, mais dont l'extension n'est pas nécessairement linéaire ni continue. Elle tolère la discontinuité. On peut travailler de manière discontinue. On ne peut pas courir 100 mètres de manière discontinue si on est dans une course. On est sûr de la perdre. Ou alors, en faire 20 mètres aujourd'hui et 50 mètres demain pour dire « j'ai couru 100 mètres ». Ou alors, on parle d'autre chose que de courir une course. Et c'est un temps avec une butée, un terme. Il faut bien que ce processus s'achève sur un résultat, mais encore une fois, le résultat n'est pas prescrit comme le terme d'une situation contractualisable simplement. En tout cas, il faut qu'il y ait un terme. Alors, je vais maintenant insister sur cette valeur de non-homogénéité du temps dans la situation d'accomplissement pour faire apparaître en fait les deux temporalités qui entrent en collision. D'un côté, puisque le processus a une directionnalité et une épaisseur temporelle, il faut bien qu'il ait un terme. Mais ce terme, l'artiste peut travailler à rendre le contenu et le cours du développement de ce temps flexible ou indéterminé aussi longtemps que possible ou souhaitable pour maximiser ou espérer maximiser la valeur d'invention de son travail. Autrement dit, pour que le travail puisse encore le surprendre. Vous vous souvenez de cette manière dont Dewey qualifiait le travail, ou qu'il puisse prendre, l'artiste puisse encore prendre des décisions surprenantes, même lorsque il ou elle s'approche du résultat final. Vous vous souvenez de la toile de Picasso où, à toute fin du processus, alors qu'on pouvait le penser linéaire puisqu'il avait accumulé 500 esquisses, On pouvait dire, bon, les esquisses placent la situation dans un travail de progressivité avec une précision croissante, etc., etc. Et à la toute fin, comme je l'ai déjà dit, il intègre cette figure sur la droite du tableau avec un masque africain de femme accroupie, avec un masque africain qui surprend considérablement et qui donne un des caractères énigmatiques qui sont si appréciés dans la vision de ce tableau. Donc, ce temps-là, il a cette propriété-là. Mais nous savons aussi que le temps est une ressource rare et que l'emploi de cette ressource a, comme je l'ai dit, un coût d'opportunité, puisqu'on aurait pu faire autre chose si on l'avait utilisé autrement. Et puis l'artiste, comme je l'ai dit, travaille en mode projet et toutes sortes de gens doivent se coordonner avec lui. Et de ce point de vue-là, la butée, c'est la deadline.
C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter le cours de Pierre-Michel Minger, Comment achever une œuvre, travail et processus de création. Aujourd'hui, processus, typologie et cas. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur ». La même année a été édité en poche, en point seuil, son ouvrage « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Et plus récemment, il a dirigé l'ouvrage collectif « Le talent en débat » au PUF en 2018. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Coordination et présentation, Meryl Meneghetti. Demain, nous achèverons l'enquête de Pierre-Michel Minger, son interrogation sur l'incertitude dans le travail et le processus créateur. Il nous livrera ses conclusions provisoires. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une très agréable journée à l'écoute de France Culture.